centralizētais eksāmens franču valodā. Augstākais mācību satura apguves līmenis.
Devoir de compréhension orale. Préparez-vous au devoir numéro 1. Vous avez une minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir.
Bonjour Simon.
Bonjour.
Comment ça va ?
Fatigué.
Fatigué parce que tu viens tout juste de rentrer de Guyane. Encore un décollage de fusée. C'était comment ?
C'était chouette, comme toujours. En plus, donc là, c'est Ariane 5. Ariane 5, c'est le lanceur lourd européen. Et qui dit lanceur lourd, dit beaucoup de bruit. Donc, peut-être plus que le spectacle visuel à chaque fois, pour moi, c'est peut-être parce que je fais de la radio également, mais le son. Le son, notamment des boosters à poudre, des propulseurs d'appoint à poudre, comme on dit en bon français, qui ont un crépitement vraiment très caractéristique et une onde de choc qu'on ressent assez physiquement. Là, on était à 5 km du pas de tir au moment du lancement. Et il y a ce côté physique, vraiment, les basses qui font clapoter le sang à l'intérieur de ton cœur, tu le sens un peu. Donc non, c'est toujours un super spectacle.
C'est toujours quelque chose de magique, ça reste magique.
Oui, d'autant plus que quand on le regarde, on est sur un site d'observation où se trouvent en général également les ingénieurs, les scientifiques qui participent à la mission. Et ce sont des personnes qui ont passé 10 ans, 15 ans de leur vie à travailler là-dessus. Là, ça y est, la sonde est au sommet d'Ariane 5 et ça peut exploser comme ça en un instant et c'est 10 ans de leur vie qui part. Donc eux sont très émus. Il y a des applaudissements, il y a des cris, il y a beaucoup, beaucoup de larmes et c'est assez communicatif de voir tous ces gens émotionnellement investis là-dedans qui jouent vraiment 10 ans de leur vie sur ce moment critique puisque le lancement dans une mission spatiale, c'est quand même un des moments les plus critiques et c'est contagieux. Et c'est des gens qu'on a fréquentés, ça fait des semaines, des mois que je leur parle en préparation de la mission pour mes sujets. Donc on commence à bien les connaître et voir des gens qu'on connaît émus, forcément, c'est émouvant également de ton côté, oui.
Toi, ce sont des dossiers que tu suis depuis très longtemps, tu viens de le dire. J'ai le sentiment aussi que toutes ces missions spatiales, on en entend ces dernières années de plus en plus parler. Il y a l'ISS, bien entendu, la Station Spatiale Internationale, la mission lunaire Artemis, le rover Perseverance sur Mars, et là donc Jupiter. Pourquoi c'est important ?
Jupiter, parce que c'est la plus grosse planète du système solaire et qu'il y a des choses très intéressantes qui se passent autour, on veut savoir plus. Il y a déjà Jupiter en elle-même, qui est un monde incroyable. Il y a plusieurs missions dédiées qui sont allées la voir. Galileo de la NASA dans les années 90, Juno de la NASA qui est en cours de mission actuellement, qui tourne autour de Jupiter. Et Jupiter n'est pas qu'une planète, elle a également des lunes. Elle en a un peu plus de 90, je crois, 95, si je dis pas de bêtises. Des petites, des grosses, et notamment...
Des sortes de satellites, en fait, qui tournent autour de la planète.
Comme la Lune autour de la Terre. Et pour la petite histoire, c'est Galilée qui avait découvert les premières, donc qu'on appelle les premières les lunes galiléennes, en 1610, il avait braqué pour la première fois un télescope vers Jupiter, avait découvert ces lunes. C'était un clou en plus dans le cercueil de l'idée que la Terre était le centre de l'univers. Il y avait la révolution copernicienne avant. Et là, on s'apercevait qu'il y avait des lunes qui tournaient autour d'une autre planète que la Terre. Du coup, l'idée comme quoi la Terre était le centre de l'univers a pris un sacré coup à l'époque. Et donc là, 400 ans plus tard, eh ben, on va voir ces lunes avec une mission dédiée. Donc JUICE, c'est la mission de l'Agence spatiale européenne qui a décollé la semaine dernière.
Vous avez une minute avant la deuxième écoute. Complétez le devoir.
Bonjour Simon.
Bonjour.
Comment ça va ?
Fatigué.
Fatigué parce que tu viens tout juste de rentrer de Guyane. Encore un décollage de fusée, c'était comment ?
C'était chouette, comme toujours. En plus, donc là, c'est Ariane 5. Ariane 5, c'est le lanceur lourd européen. Et qui dit lanceur lourd, dit beaucoup de bruit. Donc, peut-être plus que le spectacle visuel à chaque fois, pour moi, c'est peut-être parce que je fais de la radio également, mais le son, notamment des boosters à poudre, des propulseurs d'appoint à poudre, comme on dit en bon français, qui ont un crépitement vraiment très caractéristique et une onde de choc qu'on ressent assez physiquement. Là, on est à 5 km du pas de tir au moment du lancement. Et il y a ce côté physique, vraiment, les basses qui font clapoter le sang à l'intérieur de ton cœur, tu le sens un peu. Donc non, c'est toujours un super spectacle.
C'est toujours quelque chose de magique, ça reste magique.
Oui, d'autant plus que quand on le regarde, on est sur un site d'observation où se trouvent en général également les ingénieurs, les scientifiques qui participent à la mission. Et ce sont des personnes qui ont passé 10 ans, 15 ans de leur vie à travailler là-dessus. Là, ça y est, la sonde est au sommet d'Ariane 5 et ça peut exploser comme ça en un instant et c'est 10 ans de leur vie qui part. Donc eux sont très émus. Il y a des applaudissements, il y a des cris, il y a beaucoup, beaucoup de larmes et c'est assez communicatif de voir tous ces gens émotionnellement investis là-dedans qui jouent vraiment 10 ans de leur vie sur ce moment critique puisque le lancement dans une mission spatiale, c'est quand même un des moments les plus critiques et c'est contagieux. Et c'est des gens qu'on a fréquentés, ça fait des semaines, des mois que je leur parle en préparation de la mission pour mes sujets. Donc on commence à bien les connaître et voir des gens qu'on connaît émus, forcément, c'est émouvant également de ton côté, oui.
Toi, ce sont des dossiers que tu suis depuis très longtemps, tu viens de le dire. J'ai le sentiment aussi que toutes ces missions spatiales, on en entend ces dernières années de plus en plus parler. Il y a l'ISS, bien entendu, la Station Spatiale Internationale, la mission lunaire Artemis, le rover Persévérance sur Mars, et là donc Jupiter. Pourquoi c'est important ?
Jupiter, parce que c'est la plus grosse planète du système solaire et qu'il y a des choses très intéressantes qui se passent autour, on veut savoir plus. Il y a déjà Jupiter en elle-même, qui est un monde incroyable. Il y a plusieurs missions dédiées qui sont allées la voir. Galileo de la NASA dans les années 90, Juno de la NASA qui est en cours de mission actuellement, qui tourne autour de Jupiter. Et Jupiter n'est pas qu'une planète, elle a également des lunes. Elle en a un peu plus de 90, je crois, 95, si je dis pas de bêtises. Des petites, des grosses, et notamment...
Des sortes de satellites, en fait, qui tournent
autour
de la planète.
Comme la Lune autour de la Terre. Et pour la petite histoire, c'est Galilée qui avait découvert les premières, donc qu'on appelle les premières les lunes galiléennes. En 1610, il avait braqué pour la première fois un télescope vers Jupiter, avait découvert ces lunes. C'était un cloue en plus dans le cercueil de l'idée que la Terre était le centre de l'univers. Il y avait la révolution copernicienne avant, et là on s'apercevait qu'il y avait des lunes qui tournaient autour d'une autre planète que la Terre. Du coup, l'idée comme quoi la Terre était le centre de l'univers a pris un sacré coup à l'époque, et donc là, 400 ans plus tard, eh ben on va voir ces lunes avec une mission dédiée, donc JUICE, c'est la mission de l'Agence spatiale européenne qui a décollé la semaine dernière.
Vous avez une minute à votre disposition. Finissez le devoir. Préparez-vous au devoir numéro 2. Vous avez une minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir.
Aujourd'hui, des bijoux faits main en France avec des perles d'eau douce de Bouchra Haïfa et Perla Création. Ces bijoux racontent ses voyages en Indonésie, Oman. Ils sont aussi en résonance avec ses rencontres, son histoire familiale. Bracelets, colliers, boucles d'oreilles ou bagues, principalement en or, argent ou plaqué or, les bijoux sont faits pour tous les budgets afin de les porter au quotidien. Ils sont produits en série limitée ou sur mesure, et pour Bouchra Haïfa, la création d'un bijou commence par la rencontre d'une perle, d'une pierre précieuse ou d'un artisan. Une histoire qu'elle aime à construire dans le partage pour rendre ses bijoux uniques.
J'ai toujours aimé les pièces uniques. Donc chaque personne a un bijou qui est à elle sa propre création.
Bouchra Haïfa, créatrice et fondatrice de Perla Création.
C'est la perle et la création. Pour moi, la perle, ça représente aussi la femme féminine, quelque chose de rare, quelque chose de précieux. C'est pour ça que j'ai choisi ce nom Perla. Et création, c'est parce qu'à chaque fois, je fais des créations.
Bouchra Haïfa est née à Oran, en Algérie. Elle arrive en France à 14 ans. Issue d'une famille de diplomates, à la fin de ses études, elle exerce dans un consulat. Sa passion des voyages lui fait découvrir la perle d'eau douce. Chaque voyage lui permet d'accumuler ses perles pour en faire des bijoux, mais c'est avant tout un loisir et une recherche personnelle. Pourtant, en 2019, après un burn-out professionnel, elle décide de changer de métier et de se consacrer à ses passions, la création, les voyages et les rencontres. Perla Création est lancée en 2020. Ainsi, toutes les perles qu'elle a collectées pendant ses voyages sont utilisées pour commencer les nouvelles collections de Bouchra Haïfa. Une destination, un voyage, une perle. Chaque bijou est différent, à l'instar des perles qui sont toutes uniques. Et son inspiration, Bouchra Haïfa, la trouve dans le métissage des cultures de son enfance.
Et je me suis inspirée de la collection Diams, des bijoux de ma grand-mère qu'elle avait acheté durant ses voyages avec sa copine.
Bouchra Haïfa aime donner un sens et des valeurs à sa marque qu'elle veut engager vis-à-vis des femmes. Elle reverse donc une partie de ses bénéfices à une association qui lutte contre l'isolement des femmes dans la précarité. Une association qui lui tient à cœur.
Pour moi, c'est redonner en fait ce que j'ai.
Vous avez une minute avant la deuxième écoute. Complétez le devoir.
Aujourd'hui, des bijoux faits main en France avec des perles d'eau douce de Bouchra Haïfa et Perla Création. Ces bijoux racontent ses voyages en Indonésie, Oman. Ils sont aussi en résonance avec ses rencontres, son histoire familiale. Bracelets, colliers, boucles d'oreilles ou bagues, principalement en or, argent ou plaqué or, les bijoux sont faits pour tous les budgets afin de les porter au quotidien. Ils sont produits en série limitée ou sur mesure et pour Bouchra Haïfa, la création d'un bijou commence par la rencontre d'une perle, d'une pierre précieuse ou d'un artisan. Une histoire qu'elle aime à construire dans le partage pour rendre ses bijoux uniques.
J'ai toujours aimé les pièces uniques. Donc chaque personne a un bijou qui est à elle, sa propre création.
Bouchra Haïfa, créatrice et fondatrice de Perla Création.
C'est la perle et la création. Pour moi, la perle, ça représente aussi la femme unique, quelque chose de rare, quelque chose de précieux. C'est pour ça que j'ai choisi ce nom de Perla. Et création, c'est parce qu'à chaque fois, je fais des créations.
Bouchra Haïfa est née à Oran, en Algérie. Elle arrive en France à 14 ans. Issue d'une famille de diplomates, à la fin de ses études, elle exerce dans un consulat. Sa passion des voyages lui fait découvrir la perle d'eau douce. Chaque voyage lui permet d'accumuler ses perles pour en faire des bijoux, mais c'est avant tout un loisir et une recherche personnelle. Pourtant, en 2019, après un burn-out professionnel, elle décide de changer de métier et de se consacrer à ses passions, la création, les voyages et les rencontres. Perla Création est lancée en 2020. Ainsi, toutes les perles qu'elle a collectées pendant ses voyages sont utilisées pour commencer les nouvelles collections de Bouchra Haïfa. Une destination, un voyage, une perle. Chaque bijou est différent, à l'instar des perles qui sont toutes uniques et son inspiration, Bouchra Haïfa, la trouve dans le métissage des cultures de son enfance.
Et je me suis inspirée de la collection Diams, des bijoux de ma grand-mère qu'elle avait acheté durant ses voyages avec sa copine.
Bouchra Haïfa aime donner un sens et des valeurs à sa marque qu'elle veut engager vis-à-vis des femmes. Elle reverse donc une partie de ses bénéfices à une association qui lutte contre l'isolement des femmes dans la précarité. Une association qui lui tient à cœur.
Pour moi, c'est redonner en fait ce que j'ai.
Vous avez une minute à votre disposition. Finissez le devoir. Préparez-vous au devoir numéro 3. Vous avez une minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir.
Bonsoir à tous. C'est annoncé comme le bouleversement du siècle, alors nous ne cessons de décliner les enjeux de l'intelligence artificielle. Ce soir, on s'interroge sur les risques, d'un renforcement des fractures. Dans une société qui est déjà fortement divisée, comment faire pour que l'IA ne soit pas un facteur aggravant? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces vastes questions, nos deux invités, à mes côtés en studio, Laurence De Villers, bonsoir.
Bonsoir.
Face à vous, Raja Chatila, bonsoir.
Bonsoir.
Aujourd'hui, un habitant sur trois dans le monde n'a pas accès à Internet.
Oui, clairement, l'accès à Internet aujourd'hui est quelque chose de très important parce que beaucoup d'informations, de services, de produits, etc. circulent sur Internet. Il y en a certains autres qui n'ont même pas accès à l'électricité. Ça risque d'empirer. Donc, il y a aussi un problème plus large que juste le service numérique lui-même.
effectivement ceux qui font l'intelligence artificielle, ceux qui vont la subir. On va être face à deux mondes parallèles, puisqu'on annonce que c'est le bouleversement du siècle.
Oui, je pense que si on n'est pas vigilant maintenant, j'espère que c'est pas trop tard, je veux pas du tout lancer des choses qui seraient pas optimistes, parce que je suis une grande optimiste sur le pouvoir qu'on a, nous humains, finalement, de décider ce qu'on voudrait faire avec ces machines. Je pense qu'il est essentiel qu'à l'heure actuelle, que l'éducation soit faite dès le plus jeune âge, et que on ait le plus possible accès, effectivement, à ces outils. Ensuite, le fait de ne pas être juste consommateur, mais de comprendre mieux comment c'est fait, à qui va la donnée, qui en tire profit, et est-ce qu'il y a des manipulations sur ces outils, c'est fondamental. Donc moi, je suis pour que l'école joue son rôle de démystificateur de ces outils.
Est-ce que la machine ne va pas plus vite que l'éducation à la machine ? C'est une question.
Bah oui, non. Mais il faut remettre quand même le sujet. On fait des machines qui font des statistiques sur d'énormes corpus. C'est un pouvoir qu'on a vu tous avec grâce à ChatGPT, enfin ceux qui avaient accès à Internet, qui ont pu jouer avec ChatGPT. Mais c'est rien que de la mathématique, tout ça. C'est un puzzle de mots, c'est un puzzle d'images qui a une forte conséquence peut-être de manipulation où on va se dire que c'est plus la peine de mémoriser parce qu'on a toujours accès à ces objets, etc. Donc il y a des conséquences sociétales fortes de désengagement dans ou de paresse, si vous voulez, parce qu'on voudra plus travailler from scratch. Mais je pense que c'est très important de comprendre que ces machines n'ont pas de conscience, n'ont pas d'intention, n'ont pas d'émotion. Il n'y a rien.
Ça fait débat.
Il faut faire très très attention aux termes qu'on utilise. Il y a une partie de la communauté scientifique qui travaille sur l'intelligence artificielle qui aujourd'hui croit, qu'on a atteint un certain niveau de développement qui jette un peu les bases, les prémices, si ce n'est plus que ça, d'une intelligence artificielle générale comparable à celle des êtres humains, qui pourrait ressentir des émotions et qui pourrait prendre des décisions d'une manière complètement autonome. Il y a certaines personnes qui croient ça. Donc, Laurence va parler d'émotion, mais si vous traduisez émotion par des paramètres numériques qui s'appuient sur une labellisation, un étiquetage en disant, voilà, quand ce paramètre dépasse une certaine valeur, c'est que la machine est contente ou que la machine est en colère, ça n'a aucun sens avec les émotions humaines. Mmh. Ça n'a aucun lien avec les émotions humaines, l'intelligence humaine. Mmh. Donc, on vit dans un avenir permanent qui est, c'est la fuite en avant où on affirme des choses. Évidemment, le public entend ça, croit ça, parce que parfois, effectivement, c'est des spécialistes qui le disent.
Vous avez une minute avant la deuxième écoute. Complétez le devoir.
Bonsoir à tous. C'est annoncé comme le bouleversement du siècle, alors nous ne cessons de décliner les enjeux de l'intelligence artificielle. Ce soir, on s'interroge sur les risques d'un renforcement des fractures dans une société qui est déjà fortement divisé. Comment faire pour que l'IA ne soit pas un facteur aggravant? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces vastes questions, nos deux invités, à mes côtés en studio, Laurence Devillers, bonsoir.
Bonsoir.
Face à vous, Raja Chatila, bonsoir.
Bonsoir.
Aujourd'hui, un habitant sur trois dans le monde n'a pas accès à Internet.
Oui, clairement, l'accès à Internet aujourd'hui est quelque chose de très important parce que beaucoup d'informations, de services, de produits, etc. circulent sur Internet. Il y en a certains autres qui n'ont même pas accès à l'électricité. Ça risque d'empirer. Donc, il y a aussi un problème plus large que juste le service numérique lui-même.
Effectivement, ceux qui font l'intelligence artificielle, ceux qui vont la subir, on va être face à deux mondes parallèles, puisqu'on annonce que c'est le bouleversement du siècle.
Oui, je pense que si on n'est pas vigilant maintenant, j'espère que c'est pas trop tard, je veux pas du tout lancer des choses qui seraient pas optimistes, parce que je suis une grande optimiste sur le pouvoir qu'on a, nous, humains, finalement, de décider ce qu'on voudrait faire avec ces machines. Je pense qu'il est essentiel qu'à l'heure actuelle, que l'éducation soit faite dès le plus jeune âge, et qu'on ait le plus possible accès, effectivement, à ces outils. Ensuite, le fait de ne pas être juste consommateur, mais de comprendre mieux comment c'est fait, à qui va la donnée, qui en tire profit, et est-ce qu'il y a des manipulations sur ces outils, c'est fondamental. Donc moi je suis pour que l'école joue son rôle de démystificateur de ces outils.
Est-ce que la machine ne va pas plus vite que l'éducation à la machine? C'est une question.
Bah oui, non. Mais il faut remettre quand même le sujet. On fait des machines qui font des statistiques sur d'énormes corpus. C'est un pouvoir qu'on a vu tous grâce à ChatGPT, enfin ceux qui avaient accès à Internet, qui ont pu jouer avec ChatGPT. Mais c'est rien que de la mathématique, tout ça. C'est un puzzle de mots, c'est un puzzle d'images qui a une forte conséquence peut-être de manipulation où on va se dire que c'est plus la peine de mémoriser parce qu'on a toujours accès à ces objets, etc. Donc, il y a des conséquences sociétales fortes de désengagement dans ou de paresse, si vous voulez, parce qu'on voudra plus travailler from scratch. Mais je pense que c'est très important de comprendre que ces machines n'ont pas de conscience, n'ont pas d'intention, n'ont pas d'émotion. Il n'y a rien.
Ça fait débat.
Il faut faire très, très attention aux termes qu'on utilise. Il y a une partie de la communauté scientifique qui travaille sur l'intelligence artificielle qui, aujourd'hui, croit, qu'on a atteint un certain niveau de développement qui jette un peu les bases, les prémices, si ce n'est plus que ça, d'une intelligence artificielle générale comparable à celle des êtres humains, qui pourrait ressentir des émotions et qui pourrait prendre des décisions d'une manière complètement autonome. Il y a certaines personnes qui croient ça. Donc, Laurence va parler d'émotion, mais si vous traduisez émotion par des paramètres numériques qui s'appuient sur une labellisation, un étiquetage en disant, voilà, quand ce paramètre dépasse une certaine valeur, c'est que la machine est contente ou que la machine est en colère, ça n'a aucun sens avec les émotions humaines. Mmh. Ça n'a aucun lien avec les émotions humaines, l'intelligence humaine. Mmh. Donc, on vit dans un avenir permanent qui est la fuite en avant où on affirme des choses. Et évidemment, le public entend ça, croit ça, parce que parfois, effectivement, c'est des spécialistes qui le disent.
Vous avez une minute à votre disposition. Finissez le devoir.
rendre l'épreuve de compréhension orale. Rendez vos devoirs au professeur.